Et je prie que ce matin, le Saint-Esprit va tomber, va toucher le cœur et l'esprit d'Eric, comme il porte le message pour chacun de nous, un message qui va toucher tous nos cœurs, tous nos âmes, tous nos esprits, et que c'est nous qui est changé à cause de le message ce matin. Donnez-nous les oreilles d'écouter le message ce matin, Seigneur, je prie.
Amen. Amen.
Et donnez de bonnes paroles à Eric ce matin, Seigneur, je demande. Que ton nom Amen. Soit glorifié. Amen.
Amen. Merci, Seigneur. Merci, Père. Bon, vous avez tous noté que la plupart d'entre nous, nous avons changé notre tenue habituelle. Pasteur Olivier m'avait convié à l'être plus souvent de cette sorte. Mais chacun est libre. Chacun est libre. Et ce qui est important, c'est de venir avec la parure du cœur et non la parure extérieure. Et nous sommes tout à fait d'accord sur ce point. Alors, en fait, j'ai pris la tenue, voilà, celle non pas de mon mariage, mais celle du mariage de notre fille Anne. Et je me suis dit, c'est quand même dommage, elle est là, peut-être à jamais enfermée dans son armoire, il faudrait que je la sorte de temps en temps. Voilà, et donc je me suis dit, quand j'ai été frappé par la lecture d'Ésaïe 61, il y a dans le propos du prophète l'intention que nous soyons revêtus d'un esprit non abattu, mais d'un vêtement de louange. Et donc le Seigneur nous convie ce matin à nous revêtir de sa personne et de lui. Le jour où il y a eu ce mariage de Anne et de Thibaut, sans aucun doute, Anne et Thibaut auraient été malheureux si j'étais venu en tenue quelconque, comme si finalement m'importait peu leur mariage. Et c'était important finalement de leur signifier que j'étais en fête et que je les accompagnais à cette fête. Et donc j'avais pris mon plus beau vêtement, et c'est la même chose pour Sabine. Donc nous étions magnifiques comme notre fille l'était, comme son gendre l'était, et c'était une célébration. Donc quelque part, c'est une manière d'honorer. Et je suppose que vous auriez tous l'intention d'honorer celui qui viendrait nous visiter et d'être dans une tenue bah, qui lui rende finalement hommage. Alors voilà, c'est l'explication, mais on vient comme on veut. Hein. Ce n'est pas McDo ici, certes, mais chacun vient comme il le désire et comme il le veut. Et l'important, c'est d'être revêtu de la personne de Jésus. Amen. Voilà. Alors, vous vous souvenez probablement de cette intervention que nous avons eue, un premier message sur l'adoration, sur la louange, l'amour de Dieu, l'amour que nous devons lui consacrer. Et c'est la deuxième partie, comme je vous l'ai promis. Et vous vous souvenez sans doute de l'intervention de notre sœur Laurence qui nous rappelait la signification du mot hébreu que j'avais utilisé, qui est le mot « yada », qui signifie tout simplement les mains ouvertes, les mains tendues, les mains que l'on jette vers Dieu. Et elle décomposait le mot « yad », qui signifie les mains ouvertes, et « a », qui est la référence à Yahvé, comme Laurence nous l'avait signifié. Donc littéralement, cela signifie « yada », la main que l'on jette vers Dieu, ce qui est magnifique. Ce mot « yada » est exprimé pour décrire une action, une gestuelle, élever finalement les mains avec joie. C'est donc plus qu'une gestuelle physique, c'est une action de joie. Et cette action de joie, elle ouvre des mains, comme cela a été dit, des mains qui sont pures. Il y a un autre mot en hébreu, qui existe pour désigner la louange, et ce mot est Tehila. Donc je l'ai bien prononcé. Le mot Tehila, qui lui ne fait pas référence à la dimension de ses mains ouvertes, Mais Tehillah fait directement référence à la notion du cœur, louer Dieu avec son cœur. Yada, j'avais insisté sur le fait que c'était la louange qui est donnée à Dieu avec un cœur pur. Tehillah, c'est le cœur, on loue le Seigneur avec le cœur. Et ce matin, Dieu nous donne un rendez-vous particulier pour louer celui que nous voulons honorer avec tout notre cœur, tout notre être, toutes les essences qui habitent notre être, de le louer avec notre cœur. J'aime beaucoup, je dirais, dans le judaïsme, le fait que l'on loue avec son corps. On n'est pas figé. David dansait pour le Seigneur, pour l'Éternel. Je trouve que parfois on est trop guindé à ne pas à rester, je dirais, figé, alors que le Seigneur nous invite à le louer avec notre corps, tout notre corps, tout notre être. Amen. Alors, le mot Tehillah est signé à plusieurs reprises dans les psaumes, notamment dans le psaume 9, du verset 14 au verset 15. Alors, vous pouvez lire vos Bibles, donc je répète la référence, psaume 9, 14, verset 15. « Afin que je publie toutes les louanges, Tehillah, dans les portes de sa fille de Sion, et que je me réjouisse de ton salut. » Amen. Alors, réjouissez-vous de votre salut. Je pense qu'aujourd'hui, le Seigneur nous fait ce rendez-vous pour nous réjouir de notre salut. Au fond, c'est parce que nous sommes sauvés que nous louons Dieu. Nous ne louons pas Dieu parce qu'il aurait fait quelque chose pour nous, mais nous le louons parce que nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés. Nous qui étions condamnés, il nous a fait cette grâce, et c'est pour cela que nous venons le louer chaque dimanche, mais en réalité, c'est chaque jour que nous sommes appelés à louer le Seigneur, comme je l'avais dit, pour l'adoration qui doit être notre mode de vie, notre style de vie. Adorer Dieu en vérité, non pas à un instant, non pas à un moment, mais chaque jour, chaque instant, chaque fois que je sens que je respire, je dis, Seigneur, je te rends grâce que tu me donnes la vie. La louange, c'est magnifier Dieu. C'est une action de grâce. C'est le remercier pour ce que Dieu est pour moi. C'est célébrer sa grandeur. Chaque fois, nous nous demandons, peut-être nous nous interrogeons, mais pourquoi nous louons Dieu ? Nous louons Dieu pour sa grandeur. Nous louons Dieu pour ce qu'il est. Et chaque fois, nous confondons prière et louange, mais nous devrions commencer par la louange, c'est-à-dire vraiment dire ce que Dieu est pour chacun d'entre nous et ne pas commencer le matin en gémissant, en priant pour soi, alors que le Seigneur nous convie à un rendez-vous de louange. Et je suis moi-même interpellé par ce que je dis, je prie trop souvent et je ne le loue pas souvent. Et je devrais le louer chaque jour pour ce qu'il est. Et nous avons un fabuleux exemple dans la Bible que je vous donnerai tout à l'heure avec Paul et Silas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange, Tehillah, à notre Dieu. Et beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte et ils se sont confiés en l'Éternel. Dans un autre texte des Écritures, il est écrit « Éternel, tu es mon Dieu. Je proclamerai ta grandeur, je célébrerai ton nom, car tu as accompli des merveilles. » Ésaïe 25, au verset 1. Ésaïe, chapitre 25, verset 1. La louange, c'est quoi ? La louange, c'est confesser son espérance, sa confiance en Dieu. Quand je loue Dieu, je confesse ma confiance en Dieu. Dans les situations de calamité, dans les situations de détresse, dans les situations d'accablement et d'abattement, et peut-être que tu es venu abattu, peut-être es-tu fatigué, eh bien, le Seigneur te convie à le louer. Quelles que soient les circonstances, nous ne devons pas être assujettis aux circonstances qui préoccupent notre existence, mais nous devons tout simplement, à travers la louange, exprimer notre confiance dans l'Éternel. Et je lis ceci dans le psaume 42, psaume chapitre 42, verset 12. Pourquoi être abattu, mon âme, et pourquoi gémir en moi? Pourquoi ce matin gémis-tu? Espère en Dieu. Espère en Dieu. Et j'y reviendrai, c'est Paul et Silas qui, dans leur prison, espèrent en Dieu et le louent de tout leur être et de tout leur cœur. Il est mon salut et mon Dieu. Psaume 42, verset 12. Lors de mon précédent message, c'est une piqûre de rappel. Nous oublions toujours les messages qui nous sont donnés dans l'Assemblée. C'est pour ça que parfois, il est bon d'y revenir. J'avais insisté sur un point concernant l'adoration. Vous vous en souvenez sans doute, notre adoration, comme je l'ai dit précédemment, doit être un style de vie, un mode de vie qui appartient au quotidien et non à un moment de notre vie ou un rendez-vous qui nous est donné par l'Église pour prier. L'adoration comme la louange, l'adoration comme la louange est collective. L'adoration comme la louange, elle embrasse toute l'Église. Mais il n'y a pas d'adoration ni de louange véritable en Église si chacun d'entre nous ne comprend pas que le Père cherche des adorateurs en vérité. Et adorer en vérité, ben, c'est exprimer un amour total, consacré à Dieu. J'utilise l'expression, je sais que certains sursautent à leur oreille, quand je dis louangeur, ben oui, je ne vois pas d'autre mot que louangeur, les louangeurs qui aiment le Seigneur de tout leur cœur. Le Père, mes chers amis, cherche des adorateurs, des personnes qui ne nous louent pas le dimanche, mais qui le louent chaque jour. Le Père qui cherche des adorateurs, non pas à 6h30 du matin, c'est l'heure à laquelle je me réveille, 6h30 du matin, pour accompagner Sabine dans sa journée, ou à 18h30 en soirée. Mais c'est à chaque instant de notre vie. À chaque instant de notre vie. Le Père cherche des adorateurs, non pas au mois de mars, ou un autre mois de l'année, mais à chaque moment de notre existence, Dieu cherche des adorateurs. Le Père cherche des adorateurs, non pas après mon travail séculier ou pendant mon service dans l'Église. Le Père cherche l'adorateur que tu es dans le quotidien, à tout instant, à tout moment. Vous savez que nous pouvons être repris par le Seigneur à tout moment et à tout instant? Oui. Si à tout instant et à tout moment, je dis, je mets Dieu de côté, là, il n'est pas dans mes affaires. Et à cet instant-là, le Seigneur décide de te reprendre. Alors, je sais qu'il ne va pas compter sur l'instant ou le moment de distraction où tu n'étais pas avec lui ou présent, parce que Dieu, dans sa grâce, est infini. Mais c'est quand même joyeux, comme Étienne, comme Paul, Silas, d'être prêt à tout instant et à tout moment et de dire, ben, c'est ce jour-là que je suis repris. Et peut-être que c'est ce soir ou lorsque tu partiras de ce lieu que tu seras repris. Est-ce que tu es prêt? Quelle est la disposition de notre cœur? Ce n'est pas une mauvaise nouvelle que je t'annonce, c'est juste pour que ton cœur soit tourné vers Dieu et que ton cœur soit un cœur d'adorateur qui dit, ok Seigneur, je me confie en toi et j'espère en toi. Et si c'est aujourd'hui que tu choisis de me reprendre, je suis prêt. Amen. C'est parfois bon de se rappeler ce type de message parce qu'on est tellement attaché à notre existence et à notre vie. Mais Paul et Silas disaient, mais la mort est un gain. Je suis pressé d'entrer dans le royaume. Je suis pressé de voir le Seigneur Jésus. L'êtes-vous? Est-ce que nous sommes pressés de voir le Seigneur Jésus? Ça, c'est la bonne question que nous devrions nous poser tous. N'est-il pas écrit dans les psaumes, psaume 119, verset 55, « La nuit, je me rappelle ton nom, ô Éternel, et je garde ta loi. » N'est-il pas écrit dans le psaume 63, verset 6, « Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant l'éveil de la nuit. » Ou au psaume 92, verset 2, « D'annoncer le matin ta bonté. » et ta fidélité pendant les nuits. Vous comprenez, je crois que Dieu veut nous exhorter, nous encourager les uns les autres à faire de Dieu le quotidien de notre vie, à faire le Seigneur le quotidien de notre vie, du lever du soleil jusqu'à son couchant. Le Seigneur nous presse de l'aimer, de le louer, de nous consacrer à élever son nom, à chérir, à aimer Dieu, sa personne, en aimant le prochain qu'il va nous placer sur la route. Parce que moi, je ne dissocie pas la louange et l'adoration de l'amour que nous témoignons à notre prochain. Je ne peux pas dissocier les deux. Vous comprenez ? Je loue Dieu de tout mon cœur, de tout mon être, de toute mon âme, mais j'aime mon prochain. Enfin, je ne le dis pas comme une affirmation, je le dis parce que c'est une invitation, c'est un commandement. Et je ne peux pas faire l'impasse de ce commandement. Et donc de comprendre que ce commandement est semblable au premier. Jésus n'attend pas, absolument pas qu'on lui dise « Seigneur, Seigneur ». Jésus n'attend pas que vous lui dites « Seigneur, Seigneur, je t'adore ». Le Seigneur attend de chacun d'entre nous que nous l'adorions en vérité, comme je l'avais dit, en élevant des mains pures, car celui que nous adorons est un Dieu saint. Trois fois saint, et comme cela nous a été rappelé dans le précédent message qui vous a été partagé. Dans ce même message, vous avez indiqué également que nous parlerions de la louange. Et en méditant sur ce thème, j'ai été saisi, en préparant le texte d'Ésaïe, parce que tu nous avais fait travailler pour commenter Ésaïe chapitre 53, et en méditant sur ce thème, je fus frappé, saisi par la lecture de deux magnifiques versets qui se sont littéralement imposés à moi. Et je vous propose de les lire pour comprendre toute la portée que ces versets de la parole auront comme impact pour chacun d'entre nous. Et je vous propose de lire dans les Actes, le chapitre 16, verset 25, Actes, chapitre 16, donc je vous laisse le temps de lire, verset 25, chapitre 16, verset 25, acte 16, verset 25. Alors, je vous fais l'impasse du contexte, mais très rapidement, Paul et Silas prêchent dans la ville. Philippe. Et quand ils prêchent, il y a une femme qui les suit et qui est visiblement possédée d'un démon, et elle prédit des choses. Et en fait, elle fait la fortune de ceux qui ont exploité ce don divinatoire. Et Paul, au nom de Jésus, fait taire cette femme. Et alors, il perturbe le commerce de cette femme, et ceux qui exploitent cette femme s'en plaignent, non pas à la mairie locale, mais au gouverneur local, pour lui dire « Paul et Silas perturbent nos affaires, il faut l'arrêter ». Et il se trouve être emprisonné. Et je vous lis donc « emprisonné » et je vous lis ce qui se passe. Donc injustement, il se trouve être emprisonné. Et donc nous lisons ce verset 25, « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. » Ils priaient et chantaient les louanges de Dieu. J'aimerais simplement que vous revisitez la scène. Ils sont littéralement entravés, c'est-à-dire qu'ils ont des blocs de bois à leurs jambes. Ils ne peuvent pas se mouvoir, ni même se mettre debout et se déplacer dans leur prison. Ils sont entravés. On dit que tous les prisonniers étaient liés, ligotés. Donc, ils ne pouvaient pas non plus se mouvoir des mains, enchaînés. Ils sont emprisonnés injustement. Je ne sais pas ce que c'est que quand on reçoit une tuile dans sa tête et au cours de sa journée, dans quel esprit nous sommes. Bien souvent, nous ne prions plus, nous sommes en train de nous plaindre. Là, ils se trouvent entravés, injustement. Et il trouve le moyen de prier, de louer Dieu. Il prie, il loue Dieu, de tout leur cœur, de toute leur âme. Je vais commenter ensuite. Hein. Et puis, il y a ce deuxième verset qui m'a frappé et qui fait miroir au texte des Actes et de façon extraordinaire. Et c'est là où je voulais vous édifier ce matin, comme je l'ai été. Ésaïe 61, verset 1. Et nous pouvons lire ces versets. Ce texte d'Ésaïe est en résonance avec les Actes. Vous allez dire, ah bon, il est en résonance avec les Actes. C'est le miroir de ce texte des Actes que nous avons lu. Lisons ce texte et cet extrait. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles. Que faisaient Silas et Paul, sinon que d'apporter de bonnes nouvelles? De bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté. Et on verra que dans le texte des Actes, il y avait un geôlier qui était présent. Et ce geôlier qui observe, écoute les chants et les louanges qui montent au ciel par Paul et Silas, qui est donc le surveillant de la prison, le gardien de la prison. Dieu ne manque jamais d'humour dans une vie. Dieu décide de sauver et de libérer ce geôlier. C'est probablement lui qui est dans les chaînes et que le Seigneur va délivrer et libérer. Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Jour de vengeance de notre Dieu. Pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange, au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice. Vous qui louez l'Éternel, vous êtes les térébintes de la justice. Une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Et c'est plus que de la poésie, je peux vous l'assurer. Il y a là quelque chose comme une parole qui vient en nous libérer. Toi qui es venu peut-être avec un esprit abattu ce matin, le Seigneur veut te revêtir d'un esprit de louange. Au lieu d'un esprit de chagrin et de deuil, le Seigneur veut te revêtir d'un vêtement de louange. Dans le livre des Actes, nous découvrons que Paul et Silas sont donc détenus dans une geôle. Ils sont en prison à Philippe. Et que ferions-nous à leur place si nous étions nous-mêmes conduits en prison? Déjà, comme je vous l'ai dit, si le moindre pépin se présente à notre existence et à notre vie, nous avons quand même beaucoup de mal à exprimer toute notre reconnaissance à Dieu. Hein ? Vais-je le remercier si je suis arrêté ? Ben, peut-être que oui, je devrais le remercier en disant ben, « je vais être celui que Dieu va utiliser pour être son canal ». Nous préférons le plus souvent gémir et lui indiquer que nous sommes dans la galère, comme si le Père lui-même ignorait notre situation. On commence par prier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui m'arrive moi-même très souvent, alors que je devrais surtout louer Dieu parce qu'il connaît déjà la situation. Paul et Silas ne se lamentent pas. Paul et Silas ne se lamentent pas dans la prison. J'aimerais que chacun d'entre nous, nous nous souvenions de leur situation, de leur attitude. Nous serions, nous, effrayés et remplis d'inquiétude à leur place. Mais eux ne sont pas inquiets. Ils louent l'Éternel. Silas et Paul se souviennent sans doute du texte d'Ésaïe que je vous ai lu et l'ont en mémoire. Paul et Silas se souviennent que le bras de l'Éternel, comme nous l'avons lu dans l'Ésaïe 53, est celui qui nous secourt et nous délivre de tous nos maux. Paul et Silas, comme le texte des Actes nous le rappelle, sont enchaînés, leurs pieds sont entravés. Le passage des Actes évoque les liens et les entraves dans lesquels ils sont tenus prisonniers. Paul et Silas sont privés, finalement, de la liberté. Ils sont accusés. Ils se trouvent être condamnés à se taire, mais en fait, ils ne se taisent pas. Ils ne se taisent pas. Tous les lieux où nous sommes sont l'occasion de témoigner de notre foi. Il n'y a pas pour Dieu de circonstance où nous ne pouvons plus ne pas évoquer celui qui vit en nous. Amen. Il n'y a rien qui ne soit interdit. Mais Paul et Silas, donc, vont vivre un événement extraordinaire. Soudain, un tremblement de terre. Imaginez le tremblement de terre qui secoua la prison, fit tomber les verrous qui maintenaient en détention Paul et Silas. Paul et Silas ne se disent pas « super aubaine ». Les prisons, les portes des prisons s'ouvrent, nos chaînes tombent, les prisonniers peuvent s'évader. Non, ils restent dans la prison. Paul et Silas décident de rester dans la prison. Et tout d'un coup, il y a ce geôlier qui est effrayé par les circonstances, qui lui est persuadé avec ce tremblement de terre que tous les prisonniers ont pris la poudre d'escampette pour fuir la prison. Quelle est l'attitude de Paul et de Silas à l'égard de ce geôlier? Paul dira au geôlier, comme Jésus, quand Jésus est ressuscité d'entre les morts, libéré de sa tombe, Paul va dire au geôlier, ne crains pas. Ce n'est pas extraordinaire. Il ne se sauve pas. C'est une attitude qui est celle de celui qui a loué le Seigneur, qui a été déjà témoin dans la prison. Parce que le geôlier, lui, il était là toute la nuit à entendre les louanges et les prières qui montaient au ciel. Paul et Silas ne s'évadent pas de la prison. Ils restent dans la prison. Et il dit à ce prisonnier qui veut attenter à sa vie, qui veut mettre fin à ses jours, parce qu'il est effrayé, parce qu'il se dit mais je vais être accusé, ma position sociale va être remise en cause, en question. Paul a cette réaction, et je suppose que Silas, qui est vraiment un disciple fidèle, dise à ce geôlier, ne sois pas effrayé, sois sans crainte. Je pense que ça a été une parole libératrice. Il n'a pas commencé par une prédication. Paul a dit « ne crains pas ». Ce fut le bouleversement d'une nuit pour ce geôlier et cette famille à cause de la louange entendue, du prodige qui s'est produit. Et toute sa famille reçut Paul pour soigner ses blessures parce qu'il avait été roué de coups. Il faut s'en souvenir. Ils ont été roués de coups, tous les deux. Le geôlier prend soin d'eux et toute la famille se fait baptiser. La louange est une puissance libératrice, mes amis. Ne crains pas les premiers mots de Jésus, les mots de Paul. La louange est une puissance de vie. Le geôlier, lui, s'est remémoré la joie malgré l'emprisonnement. Il va passer de la crainte à la joie, de la mort à la vie. Il était sur le point de se suicider, ce geôlier, et il va passer de la mort à la vie. Ceux qui sont en détresse sont déjà dans une semi-mort. Et la louange est venue. C'est pour ça que le Seigneur nous dit, ne sois pas revêtu de tristesse, mais sois revêtu d'un vêtement de louange. Il accueille, ce geôlier, la vie de Jésus. Et la louange, yada, des mains pures, et teila, qui vient du cœur, cette louange entonnée par Paul et Silas, est venue en quelque sorte toucher le cœur de cet homme, ce gardien de prison. L'amour du prochain qui n'est habité par aucune crainte, la parole de ce Dieu vivant qui habitait le cœur de Paul et Silas, a brisé quoi ? Les chaînes. Celui qui était prisonnier n'était pas Paul et Silas, mais le geôlier. Et sa louange est venue libérer le geôlier. Quel paradoxe, quel humour le Seigneur n'a-t-il pas ? Celui qui est en prison n'est pas celui qui est entravé pour ne plus se mouvoir et se déplacer. Celui qui est en prison est le geôlier qui est là. Et c'est lui qui est libéré. Paul et Silas ont mis en œuvre la parole de Jésus envoyée par le Père pour libérer les captifs. Jésus ouvre les portes de toutes les prisons. Et là, ce matin, il y a beaucoup de prisons dans les cœurs. Mais Jésus est venu ouvrir les portes de toutes les prisons. La louange ouvre les portes de toutes les prisons, mes frères et sœurs. Parfois, nous avons des prisons cérébrales parce que nous avons des sujets obsédants qui viennent de manière récurrente dans nos esprits. Et nous avons besoin de vivre une libération de nos âmes, parce que ce qui importe, c'est d'avoir les yeux fixés vers le Seigneur, vers l'Éternel, et non vers les sujets qui quotidiennement viennent entraver notre marche avec le Seigneur. Nous sommes parfois prisonniers de nos habitudes, prisonniers de nos angoisses, de nos anxiétés. Qu'est-ce que sera le lendemain ? Il y a des tas de sujets qui peuvent nous angoisser. Mais le Seigneur est celui qui veut nous délivrer de toutes nos prisons. Amen. La louange est une libération, mes frères et sœurs. Amen. Au psaume 34, versets 4 et 5, le roi David nous invite à magnifier avec lui l'Éternel, à exalter son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'arrache de toutes mes frayeurs. Psaume 34, versets 4 et 5. Le Seigneur veut nous arracher de toutes nos frayeurs, comme ce geôlier. Il veut faire bien plus aujourd'hui pour toi, puisque Jésus veut te revêtir, comme je l'ai dit, d'un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. David a écrit « Cette fois le jour, je te loue ». Ce qui corrobore ce qui a été dit tout à l'heure. Il n'y a pas un jour, une heure, mais cette fois le jour, je te loue. En fait, toute la journée, il loue l'Éternel. Psaume 119. Alors, c'est un long psaume, hein, le psaume 119, au verset 164. Faites le plein, j'allais vous dire, le plein quotidien de louanges. Prenez le temps chaque jour de louer Dieu, même quand on n'en a pas spécialement envie. Amen. Même, surtout quand on n'en a pas du tout envie. Or, ce n'est pas le jour où il faut m'embêter. Hein. J'entends souvent cette expression. Eh bien, justement, le Seigneur veut te dire, te solliciter en disant « C'est bien ce jour où tout est ennui pour toi. C'est ce jour-là que j'ai pris rendez-vous pour que tu me loues. » Louer l'Éternel à la fois pour ce qu'il fait, pour ce qu'il est, pour ce qu'il est, c'est sa grandeur, et pour ce qu'il fait, parce qu'il va agir. Et qu'est-ce qu'il est, le Seigneur ? Il est puissance, il est amour, il est grâce, il est créateur. Souvenez-vous de la bonté de Jésus, notre roi. Allez jeter votre vieux vêtement, les haillons de votre esprit abattu, et revêtez-vous d'un esprit de louange. Et je terminerai à nouveau par ce texte d'Ésaïe, chapitre 52, les premiers versets. Réveille-toi, réveille-toi, revêt ta parure, Sion, revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera plus chez toi ni un circoncis ni un pur. Secoue ta poussière, lève-toi, Et il nous a écrit, mets-toi sur ton 31. Non ? Vous n'avez pas lu ça ? En fait, c'est mets-toi sur ton séant. Mais en anglais, il existe une expression, peut-être je serai corrigé par Graham, je crois qu'il existe une expression qui est mets-toi sur ton 31, qui est venue ici jusque dans notre hexagone. Hein. Mets-toi sur ton 31. Ça veut dire quoi ? Bah, tu te mets dans une tenue qui, finalement, est une tenue qui t'honore et qui honore les autres. Mets-toi sur ton 31. Mets-toi sur ton séant, Jérusalem, et détache les liens de ton cou. Prends maintenant sur toi les habits de fête. Et c'est pour ça qu'effectivement, j'ai pris, et quelques-uns d'entre nous ont pris des habits de fête, mais c'est juste une image, une métaphore. Ce n'est pas au sens propre, c'est dans un sens symbolique. Encore que le pasteur Olivier aimerait me voir comme ça chaque dimanche. N'est-ce pas ? Amen. Prends maintenant sur toi les habits de fête, revêt Christ en toi et loue le Seigneur, afin que les chaînes de ta prison tombent au nom de Jésus. Que les chaînes tombent au nom de Jésus. Pour chacun, chacune d'entre vous, que les chaînes tombent au nom du Seigneur Jésus. Les chaînes de vos dépendances, de vos addictions, de vos mensonges, que les chaînes tombent au nom de Jésus. Mes propres chaînes à moi, les chaînes de chacun d'entre nous. Et nous avons tellement de chaînes qui nous environnent, mais le Seigneur veut prendre toute la place dans ces prisons et dans cette geôle dans laquelle tu peux être. Le Seigneur veut te libérer pleinement, totalement, afin que tout ton être transpire. Loue l'Éternel, loue le Seigneur. Et c'est ainsi que nous voulons rentrer dans cet esprit de louange maintenant. Et je laisse toute la place à Aubin. Amen.